Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Micro Rebelle Hebdo. Donc cette émission est diffusée simultanément sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr et chez nos amis de PFM 99.9 tous les mardis à 15h, le samedi à 7h30 et la nuit de dimanche à lundi à minuit. Alors d'ordinaire, Micro Rebelle Hebdo, l'émission que vous connaissez d'habitude, évoque l'agenda culturel et social et évoque également un reportage. Eh bien, on a décidé de changer un petit peu la formule de ce Micro Rebelle Hebdo. En effet, l'équipe de Micro Rebelle est une jeune équipe hein, qui mène de front plusieurs émissions, et notamment nos jeunes amis, hein, lycéennes et lycéens, se sont maintenant beaucoup investis sur une émission L'actualité vue par les jeunes, ce qui fait qu'on a petits soucis d'organisation pour tenir le Micro Rebelle Hebdo qu'on vous propose d'habitude, et donc on a souhaité, à partir d'aujourd'hui, définir une autre formule de ce Micro Rebelle Hebdo, une formule peut-être plus vivante, hein, et qui en tout cas ne mobilise pas nos jeunes amis lycéennes et lycéens. Donc on a prévu une émission hein, durant l'heure qui vient, une émission de décryptage de l'actualité en quelque sorte, avec différents invités. On souhaite avoir des échanges collectifs hein, sur l'actualité telle qu'on la lit dans les journaux, telle qu'on l'écoute à la radio, ou telle qu'on la pratique dans nos collectifs et dans nos associations militantes. Alors, le principe de cette émission il est très simple. Hein. Je vais vous présenter nos invités. Chacun d'entre eux, ou chacune d'entre eux, vont pouvoir choisir une actualité qui les a marqués dans la récente période. Et puis on va en débattre entre nous collectivement. Voilà, c'est un petit peu le principe de ce décryptage hein, qui n'a que l'ambition de discuter entre nous de ce type d'événement. Alors aujourd'hui, je suis avec quatre invités hein, auxquels je vais donner la parole et je vais les laisser se présenter. Je te laisse la parole pour démarrer, Jacques.
Oui. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jacques. Je suis membre du collectif Fraternité Rome, bassin minier 62, pour localiser géographiquement. Par ailleurs, je suis aussi membre de Médecins du Monde pour la mission locale bassin minier, qui intervient donc de Hénin, on va dire, jusqu'à Buddy-les-Mines. Donc, voilà. Bon.
Très bien. Sandrine ?
Bonjour à tous et à toutes. Je suis venue pour un petit peu voir le déroulement de la radio. Et je m'appelle Sandrine, voilà.
Très bien.
Bonjour, je suis Véronique Lucas. Je m'investis dans des activités associatives et de partage depuis quelques années. Notamment, je me suis engagée dans la mise en place d'un système d'échange local en 2010. Je me suis investie dans des jardins partagés et je suis toujours... ce sont des activités de partage, en tout cas, qui sont toujours en cours pour ce qui est des jardins partagés. J'aimerais donc parler des jardins partagés et de l'auto-organisation donc des collectifs, des personnes... une auto-éducation collective, se réapproprier la nature.
Si tu es d'accord, on va en parler après, Véronique. Hein. Voilà, on fait un petit tour de table pour se présenter et on va en parler après, peut-être plus en détail. Je te laisse la parole, Jean-Michel.
Oui, alors Jean-Michel, bonjour. Je fais partie de quelques associations, dont l'association Au Secours 62, OEAU. Et puis voilà, quoi. On verra tout à l'heure.
Peut-être quelques mots sur l'association ?
L'association Au Secours qui s'est créée dans le bassin minier il y a déjà maintenant 7 ans, je pense. C'est une association qui a comme objectif de s'intéresser à la gestion de l'eau et de l'assainissement. Hein, donc on a été amené dans le bassin minier, puis sur l'Arageois, puis après dans d'autres secteurs du département. On a été amené à, être partie prenante et comprendre et se heurter aussi à la démocratie locale. Notamment sur le choix de la gestion. On s'intéresse également à la qualité, hein, la qualité de l'eau, notamment à travers les commissions locales de l'eau qui dépendent des agences de l'eau. Voilà.
Très bien. Donc nos invités sont bien en place. Hein. Le principe de l'émission, donc, c'est une première. Hein. On va s'efforcer, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, de choisir une thématique qu'on a repérée et puis d'en débattre collectivement. Si tu es d'accord, Jacques, je te laisse commencer et nous présenter un petit peu ce que tu as choisi.
D'accord. Ben, moi, ce sont trois faits, en fin de compte, trois choses que j'ai à la fois lues et entendues. Lues dans le journal La Voix du Nord, la fin de la trêve hivernale, mais on en parle également, je dirais, à la radio, à la télévision. Par ailleurs, une information sur l'évolution qui est à attendre du camp de Grande-Synthe, camp qui accueille des réfugiés, on en a beaucoup parlé, camp qui avait été créé à l'initiative de son maire pour venir, combler un petit peu le vide qui avait été laissé après la fermeture de la jungle à Calais. Et puis, par ailleurs, une émission de radio qui est passée sur France Culture, qui évoquait aussi la prise en charge, je veux dire, par un maire et une partie de sa population et son conseil municipal à Gardanne, pour justement ne plus laisser, là il s'agissait de personnes roms, qui vivaient dans des camps, bidonvilles, un peu sauvages, et donc cette volonté de ne plus laisser ça comme ça, et d'accompagner ces personnes dans une insertion avec la population.
Alors peut-être, qu'est-ce qui a fait que tu retiens ce type d'actualité ?
Alors, ce qui fait que je retiens cela, c'est parce que, étant moi-même engagé, auprès de populations roms, à l'heure actuelle, les familles que j'accompagne sont toutes confrontées à recevoir des avis d'expulsion, parce que justement, en lien avec la trêve hivernale, même si en principe, ils n'ont même pas le droit de rester dans les maisons où ils ont trouvé un hébergement de fortune. Mais donc là, les familles vont se retrouver dans l'obligation de quitter ces maisons, et sans solution autre que de trouver une autre maison abandonnée, non occupée. Et je trouve bien dommage que les communautés, les élus, les communes ne prennent pas en charge l'accompagnement de ces personnes.
Alors je vais continuer à te poser une question, puis après je laisserai la place à nos invités. Peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs à bien comprendre ce que tu viens d'exprimer. Donc ce sont des familles roms qui donc squattent des maisons.
Oui.
Et qui demande l'expulsion ? Enfin, Qui a le droit de faire quoi ? Oui. Et la police, c'est les villes, c'est comment ça se passe ?
Ce sont les bailleurs ou les propriétaires des maisons qui sont en général des bailleurs sociaux. Et ici, dans le bassin minier, c'est essentiellement Maisons et Cités Sauginorpa, qui a donc tout un lot de maisons qui sont inoccupées parce que non rénovées, parce que éventuellement vouées à la démolition dans des plans qui vont s'étendre sur plusieurs années, quoi. Et donc, en tant que propriétaire, Maisons et Cités, Sauginorpa, demande à ce que les personnes qui sont rentrées irrégulièrement dans ces maisons quittent ces maisons. Donc la procédure, c'est dans un premier temps de faire appel à un huissier qui vient prévenir les familles, remettre un papier, et puis comme les familles n'ont pas de solution pour se loger ailleurs, elles y restent. Et donc la procédure fait que le bailleur dépose une plainte auprès du tribunal qui... prend une décision du tribunal qui est souvent, presque toujours la décision donc d'obliger, de demander aux gens de quitter le logement et éventuellement après de faire quitter le logement avec un recours aux forces de l'ordre.
Oui, juste bon, une précision, parce que je connais pas bien le ouais. Disons la question des Roms. Quand on parle des Roms, moi j'entends, et beaucoup je pense, on entend caravane, on entend gens du voyage. Et alors, est-ce que c'est, tu parles de familles qui occupent des bâtiments ou des logements, ce sont donc des personnes qui veulent se sédentariser, ou alors c'est disons c'est très très ponctuel et ouais.
Bon, on peut dire que beaucoup de personnes que moi je connais sont des personnes qui sont sur le territoire depuis beaucoup d'années en général. Et pour certaines qui n'y sont pas restées, elles y seraient restées si elles n'avaient pas été dans l'obligation de partir. Alors là, moi j'ai cité la situation de personnes qui étaient dans des maisons, qui étaient rentrées dans des maisons, mais je connais aussi et j'interviens auprès de personnes qui sont sur des camps bidonvilles, hein, et qui sont dans la même situation, à savoir avec ce risque d'être expulsées à plus ou moins court terme. Certaines familles, soit pour des raisons d'habitude ou pas, ont été capables, par exemple, de passer cet hiver, qui n'a pas été un hiver très très facile, dans les caravanes, des caravanes qui sont souvent en très très mauvais état, hein, et c'était vraiment très difficile pour elles. D'autres ont préféré, je veux dire, abandonner leur caravane et entrer dans des maisons, de manière à trouver un abri qui soit un peu plus confortable.
Mais leur souhait, ce n'est pas, c'est quand même, disons, c'est un petit peu dans leur culture, c'est le voyager. Leur souhait, c'est pas de rester sur place.
Moi, je ne dirais pas ça, parce non. que je pense que si ces familles trouvaient des conditions pour vivre, qui soient des conditions, je veux dire, acceptables, à savoir un travail, bon, voilà, la possibilité d'accéder facilement à tout ce qui est école, accompagnement administratif, etc., je pense que beaucoup de familles resteraient. La preuve d'ailleurs est que depuis que moi je les fréquente, certaines familles sont là, ils n'ont pas bougé, et d'autres étaient déjà là avant que moi j'intervienne dans le cadre de mon activité d'aide.
Oui, donc déjà pour répondre à Jean-Michel, bon, ce sont donc essentiellement des familles roms, hein, qui sont concernées par les maisons en squat, parce que les gens du voyage n'ont pas le même statut, même s'ils habitent en caravane.
Donc quelle est la différence entre gens du voyage et roms que tu fais là ? Est-ce que tu peux...
Les gens du voyage ont un statut, des papiers particuliers qui leur donnent le statut de gens du voyage, et c'est reconnu... dans les différents pays par lesquels ils passent. Ils ont un travail.
Ils ont la nationalité française.
Pour la plupart, pas forcément tous, mais enfin, en tout cas, ils ont un statut de travailleur, en fait, qui leur donne l'autorisation. Enfin, qui les autorise donc à voyager avec leur... à voyager. C'est pas qu'ils les autorisent à voyager, mais en tout cas, à déplacer leur caravane d'endroit en endroit.
Ils les rendent pas ? Les Roms voyagent-ils ? Non, pas tout le monde.
Disons que les gens du voyage, en fait, ont des lieux aménagés exprès pour
ce qui se passe avec les familles, roms, c'est que ces familles arrivent sur le territoire sans moyens, sans revenus et sans moyens d'obtenir ces revenus. Ce qui fait qu'ils sont confrontés à la loi qui les autorise à rester sur le territoire pendant 3 mois. Et au-delà de 3 mois, si elles n'ont pas les moyens de payer leur hébergement, quelle que soit la formule, de payer une assurance pour couvrir leurs besoins en soins, ces personnes sont à ce moment-là obligées de quitter le territoire français et de retourner dans leur pays d'origine. Voilà. Les gens du voyage, tels qu'on les nomme, ont en général une activité, et ont d'ailleurs le droit de travailler, ont des activités diverses, soit tailler les arbres, rempailler des chaises, faire des travaux, etc. Elles sont multiples, certains s'installent sur les marchés. Et ces personnes-là, ayant des revenus, déjà, ne sont pas confrontées confrontés à cette obligation de quitter le territoire français. Et je le répète, pour la plupart, d'ailleurs, ils ont la nationalité française et des papiers français, ce qui leur donne le droit entier de rester en France.
Oui, pour la plupart, elles ont même le droit de vote, donc en France. Oui. Hein.
Alors, ces gens du voyage sont d'origine française.
Pas toutes.
Donc d'Europe centrale comme, parce que les Roms, c'est Europe centrale.
En fait, au siècle dernier, les gens du voyage donc étaient déjà présents en France. Et bon, la France s'inquiétant de ces personnes, de ce que souhaitait en fait faire sur le sol français ces personnes présentes, s'est intéressé donc à leur situation et a fini par leur donner un statut de gens du voyage, mais en fait ces personnes avaient obligation d'avoir un travail. Elles sont obligées de présenter la preuve d'un travail qui les oblige à donc se déplacer ou toute l'année ou temporairement ou
Ce qui fait surtout problème, mon inquiétude n'est pas par rapport aux gens du voyage. Les gens du voyage ont des revenus. Certains vont jusqu'à leur reprocher en disant ils ont des belles voitures, ils ont des belles caravanes, etc. Ce qui n'est pas le cas des familles dont moi je m'occupe, que j'accompagne. Bon, les gens du voyage, leur problématique, telle que je l'ai entendu souvent, c'est de trouver des aires d'accueil qui soit suffisamment importante sur les communautés d'agglomération, puisque c'est les communautés d'agglomération qui ont la compétence pour mettre à disposition ces aires d'accueil, et surtout des aires d'accueil lors des déplacements importants, lorsqu'ils ont des regroupements religieux ou autres, parce que les aires d'accueil qui existent peuvent peut-être accueillir 10, 15, 20 caravanes, et parfois quand ils se déplacent parce qu'ils se regroupent, là où ils sont à 50 ou 60 caravanes, c'est beaucoup plus problématique. Donc ils investissent des vastes plaines laissées libres ou des terrains qui servent parfois au loisir le week-end. Bon, ce qui forcément crée des problèmes pour les maires et les gens qui avaient l'habitude de fréquenter. Voilà. Pour les familles roms qui ne sont pas dans cette situation, eux sont confrontés au fait de n'avoir aucun revenu, mis à part celui que leur permet d'obtenir le fait de faire la manche, le fait de récupérer un peu de ferraille et de la revendre, de la trier, de la revendre, et puis aussi ensuite leur démarche auprès des associations caritatives qui veulent bien leur venir en aide.
Très bien, alors si je peux me permettre une petite synthèse intermédiaire, donc on a donc des familles qui sont menacées d'expulsion, notamment du fait que la trêve hivernale est passée, c'est ce que je crois que tu évoquais, avec donc des menaces d'intervention des forces policières, typiquement, avec reconduite à la frontière ou...
Éventuellement, c'est une possibilité. Elle n'est pas forcément très très utilisée, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui est très très efficace. Ces personnes-là, c'est une question de survie pour elles. Donc, quand elles ont passé la frontière, dans les jours qui suivent, elles reviennent parce que, éventuellement, leurs enfants avaient l'habitude d'aller dans telle ou telle école, parce que elles ont quand même créé leur réseau. De personnes qui leur viennent en aide, elles connaissent un peu les lieux, et partir ailleurs, ça n'est pas ce qui les intéresse.
D'accord, très bien. Alors, d'accord pour l'explication sur l'expulsion, en quelque sorte, l'expulsion du logement, avec éventuellement reconduite à la frontière, mais c'est rare. Alors, donc tu évoquais la politique mise en œuvre à Gardanne.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux la resituer, qu'on puisse avoir un échange à ce sujet ?
Moi, ce que j'ai compris lors de l'émission que j'ai entendue, c'était justement le fait que le maire Et donc c'était entouré ben, des personnes qui avaient bien voulu l'accompagner, je suppose un certain nombre de personnes de son conseil municipal, et puis des bénévoles, des volontaires, je veux dire, qui avaient envie justement de faire ce qu'il fallait pour que ces situations-là ne restent pas des situations bidonvilles, on va dire d'une certaine manière, et des situations où il n'y a pas de communication. Parce que la communication, elle est quand même plus facile pour les gens qui sont en situation de pouvoir d'aller à la rencontre des familles. Et donc, moi, ce que j'en ai compris, c'est que voilà ce qui s'est passé. Et le maire a donc proposé à ces familles de s'installer sur un terrain, le terrain du Puy-Zède, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, un terrain où donc il les autorisait à séjourner. Il a fait en sorte de mettre un point d'eau où les personnes puissent avoir de l'eau facilement et à proximité. Je crois qu'il a fait aussi installer un point d'accès électrique régulier. C'est la commune qui a pris en charge le paiement de l'électricité aux fournisseurs d'accès en électricité, je ne sais pas lequel a été choisi. Voilà, il a aussi facilité tous les contacts avec les associations locales qui peuvent venir en aide aux personnes qui sont dans la précarité, qui n'ont pas de moyens. Et je pense aussi qu'il y a un accompagnement vers toutes les structures d'insertion, d'accès, pourquoi pas, à l'emploi par l'intermédiaire de formation, avec les pôles emploi ou des choses comme ça. Il y a une volonté des locaux et notamment des autorités d'accompagner cela. Ce que, par exemple, moi, je n'ai pas trouvé dans la commune d'où je suis origine. Voilà.
Je ne sais pas si ça vous amène à réagir.
Alors bon, moi, je voulais dire Véronique. Que effectivement, les familles, elles s'ancrent, présentent, les familles roms, ce qui les rassemble, bon, c'est de parler aussi le romani, en fait. La langue commune des personnes roms, c'est le romani, c'est ce qui permet aussi de les distinguer avec les gens du voyage, qui ne parlent pas forcément le romani, mais qui peuvent aussi, en fait, selon leur origine.
Mais ils parlent français quand même.
Ils parlent le français.
Les Roms, hein.
Non, pas tous.
Non,
très peu, non,
en
pas
fait,
forcément.
En fait, à 75%, moi, ils sont...
Non, à l'heure actuelle, moi, j'accompagne des familles à la fois roumaines, et la plupart ne parlent pas le français. La famille roumaine connaissent le roumain, et après parlent la langue, dont on dit le romani, ou on pourrait dire le gitan, ou le tzigane, ils le disent aussi comme ça. Sur la commune de Liévin, où là j'interviens aussi, ce sont des familles d'origine serbe essentiellement, et elles parlent le serbo-croate et l'allemand, parce que c'est une langue qui se parle aussi dans leur pays d'origine. Et voilà, elles ne parlent pas le français, sauf quelques personnes qui sont un peu plus évoluées, qui ont pu éventuellement aller à l'école, ou qui sont déjà venues en France pendant quelques années auparavant, et qui se sont familiarisées avec la langue.
Oui, mais donc les enfants sont scolarisés, tous ceux que tu connais là. Oui.
Non.
Pas du tout.
Non, quelques enfants sont scolarisés. C'est une démarche qui est quand même assez difficile, parce qu'il faut aller inscrire les familles. Il faut ensuite qu'une école soit désignée. Il faut ensuite récupérer du matériel aussi, de manière à ce que les familles puissent y aller. Il faut trouver les vêtements qui vont permettre à ces enfants de pouvoir, être accueillis dans les écoles comme des petits enfants, tout venant. Et ce n'est pas évident. Quand on vit sur un camp sans eau, sans électricité, sans moyens, avoir un savon, c'est quelque chose de compliqué. Et si on n'a pas de savon, on ne peut pas se laver. Se laver à 7 heures du matin quand il gèle dehors, qu'il faut commencer à casser la glace qui est dans le bidon, ça ne permet pas d'être dans les conditions les meilleures pour pouvoir aller à l'école.
Ce sont des difficultés. Sur une radio nationale, j'avais entendu, là, comme ça, par hasard, il disait, c'était sur le racisme, il disait que le racisme en France avait baissé ces dernières années, sauf justement vis-à-vis des Roms. Et il disait que donc la personne qui connaissait bien ce milieu-là disait que les enfants étaient très adaptables, hein, qu'ils progressaient très vite à l'école. Hein, et disons, par exemple, pour l'apprentissage de la langue, le français, bon, j'ai entendu ça comme ça, mais je ne suis pas...
Les enfants sont très en demande. Dans l'expérience que moi j'en ai, c'est que dans les écoles, l'accueil est plutôt, je veux dire bon, hein, favorable. Ce qui va déranger un enseignant, une équipe éducative, c'est les absences. Parce que bon, les conditions de vie, encore une fois, font que il y a des absences qui peuvent être assez fortes. Bon, un instituteur n'aime jamais, ou un professeur n'aime jamais que des enfants soient absents de manière régulière ou n'arrivent pas forcément à l'heure. L'heure, c'est l'heure à l'école. Bon, et voilà ce qui va créer des difficultés. Mais moi, je dirais que là, par rapport à l'éducation nationale, on trouve plutôt une bonne compréhension, quoi, un bon accueil. Voilà.
Peut-être par rapport au racisme que tu évoquais, Jean-Michel, on peut peut-être rappeler que l'exemple vient de haut. On peut peut-être rappeler le discours de Sarkozy à Grenoble concernant les Roms, le discours de Manuel Valls également, hein, sur... le fait que il serait peut-être tout aussi bien chez eux. Mais là, j'avais une question, Jacques, peut-être à te relancer sur cette question de la scolarité. Donc, la scolarité en France est obligatoire pour tous les enfants. Mais alors, on a bien compris les freins matériels que tu évoquais, hein, la toilette, les devoirs scolaires. Mais est-ce qu'il y a aussi des freins de type politique, administratif ? Autrement dit, est-ce qu'il y a de l'obstruction de la part de... soit des directions d'école, soit des collectivités, des municipalités, des villes.
Certaines communes, freinent un peu tant qu'il n'y a pas une certaine pression faite par les associations qui accompagnent les familles. Elles font comme si elles ignoraient la présence de ces familles. Et d'ailleurs, c'est parfois ce qu'on nous dit quand on va pour l'inscription. Ah bon, il y a des familles qui sont là, à quelle adresse, on n'était pas au courant. Et donc, n'étant pas au courant que des familles sont là, elles ne sont pas considérées comme des résidents de la commune, et donc les enfants ne sont pas censés être inscrits. Donc il faut déjà, là aussi, trouver le moyen de donner une preuve que la famille est bien installée, hébergée sur la commune, soit par une domiciliation, soit par une adresse, soit parce que la famille a contracté pour l'électricité, pour le gaz, un contrat qui permet de montrer que donc la famille est vraiment sur la commune, ce qui permet l'inscription auprès du service scolaire de la commune et ensuite la désignation d'une école de rattachement. Pour les enfants qui sont en collège ou en lycée, la démarche, je veux dire, est un peu la même au départ, à savoir qu'il faut pouvoir produire une pièce qui montre que la famille est bien installée, hein, même si c'est de manière irrégulière sur la commune. Il faut s'adresser ensuite au directeur académique des services de l'éducation nationale en lui produisant ces papiers-là, qui désigne à ce moment-là le collège ou l'établissement scolaire dont l'enfant relève.
Très bien, bon, on va peut-être s'acheminer vers la fin de cette première partie. Je vais néanmoins une question générale par rapport à l'actualité que tu as évoquée. Donc c'est un bel exemple, hein, Gardanne. Qu'est-ce qui fait que c'est pas généralisable ? Volonté politique ou...
Ben c'est la question que je voulais évoquer justement aujourd'hui, parce que quand je vois l'enthousiasme, je crois que c'est Monsieur Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, qui a fait quelque chose d'extraordinaire, et qui a permis quand même de mettre un peu d'humanité dans la manière dont on accueillait les réfugiés qui étaient auparavant dans la jungle, même s'il y a des choses à dire aussi avec ce qui a pu disparaître... qui avait été mis en place spontanément dans la jungle. Mais bon, là, c'est de la même façon. Moi, je reste choqué par le fait que les Je veux dire, au-delà de ce qu'on lit sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, la partie fraternité, on a l'impression qu'elle est complètement oubliée. Je vais faire un lien encore avec autre chose. Je suis allé écouter une conférence débat où intervenait Abdennour Bidar, que vous connaissez peut-être, et il disait la même chose. Il disait que... il a invité les gens à être des tisserands, c'est-à-dire à créer des liens, à recréer des liens, hein, et autour de ce thème de la fraternité, parce qu'il disait que c'était ce qui créait, je veux dire, peut-être toutes ces tensions qu'on trouve aussi dans notre société, et qui pour l'instant, bon, si elles sont dirigées parfois vers des populations comme les populations roms, puisque j'en ai parlé, ensuite, en fin de compte, se tourne vers toute personne qui est un peu différente, hein, parce que la différence, c'est jamais simple si on ne fait pas l'effort de le dépasser et d'essayer d'aller vers... Voilà, vers...
Je pense qu'il y a beaucoup d'élus, en tout cas, qui ne s'intéressent pas à la façon dont il est possible, ou il serait possible de mobiliser les fonds européens pour pouvoir aussi faciliter l'intégration des familles roms en France. Mmh. C'est ce pourquoi aussi, régulièrement, la France est mise à l'amende du fait de ne pas les avoir utilisés, justement.
Mmh. Oui, je pense que j'avais dit ça au départ, dans la mesure où, justement, c'est les maires qui ont fait les démarches, en général, on dit que ça ne leur avait pas coûté, ça n'avait pas coûté à la collectivité, parce qu'il existe des fonds justement pour pouvoir mener ces actions d'accompagnement et d'accueil qui soient tout à fait satisfaisants. Bon, si je veux être positif, sur le secteur bassin minier, un certain nombre de maires ont fait l'effort de participer, de prendre contact éventuellement avec les autorités de la sous-préfecture et de la préfecture pour pouvoir intégrer éventuellement une famille, voire deux, mais c'est vraiment quelques maires, hein, sur les 60 communes des deux communautés d'agglomération, c'est quelques maires, et puis c'est quelques familles, c'est vraiment, bon, si on veut être positif, bravo. Et si moi je voulais quand même aussi un peu dénoncer là le fait que ça ne se fasse pas par les autres, et puis cette situation qui va être que des personnes, et ces personnes, depuis tout à l'heure on avait tendance à dire des familles roms, mais ces personnes, ce sont des grands-pères, des grands-mères, des gens qui sont malades, des gens qui ont des cancers, que j'accompagne par exemple à l'hôpital pour ces problèmes-là, des femmes qui vont accoucher, des enfants de 2 mois, 3 mois ou d'autres qui viennent de naître, et c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, si c'était une personne de notre proche, on retournerait ciel et terre pour qu'il n'en soit pas ainsi, et là, bon, on passe à côté, comme un petit peu on passe à côté des gens qui font la manche allongés dans le métro, quoi. Et moi, ça me choque.
Sandrine ?
Je pense que nos élus ont manque de courage, hein, manque de courage. Ils ont peur de voir les Roms dans leur commune. Et puis, je pense que les Roms sont pénalisés par la confusion avec les gens du voyage, qui ont plus de moyens.
Véronique ? Et
moi, je pense aussi que la région et le département ont leur rôle à jouer dans cette affaire. À tout faire pour impulser justement cette intégration, quand ils veulent impulser des choses, les faire se réaliser, les impulsent. Là, je pense que ça marche au ralenti à ce sujet-là.
Bien, bon ben écoutez, je pense qu'on va s'acheminer vers la fin de cette première partie d'émission. Donc on est toujours sur Micro Rebelle Hebdo et sur Radio PFM 99.9. On va poursuivre ce débat dans d'autres émissions. Je pense qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet. Eh bien, je vais vous proposer une petite pause musicale avec une chanson qui colle bien avec tout ce qui vient d'être dit. Une chanson qui s'intitule « Sous le ciel ». C'est un groupe qui s'appelle Byzance Nord. Effectivement, c'est une chanson à caractère tzigane. Je vous laisse l'écouter dès maintenant. Thank you.
J'étais riche et bohème, claquant ma thune à l'envi, me souciant peu de tous ces problèmes qui font pourtant partie de la vie. J'étais fier, beau comme un astre, dans mon costard sur mesure. Maintenant, je ne peux plus, quel désastre, faire réparer ma paire de chaussures. Maintenant, quand je dors, c'est sous le ciel. C'est comme ça que j'ai fini. Dans cette rue qui peut parfois se montrer si belle, même si c'est bien l'enfer que j'y vis. J'importais des escortes de Moldavie pour délasser mes pompes en croco. Aujourd'hui, les seules femmes qui me sourient le font depuis les murs du métro. C'est comme ça que j'ai fini. Dans cette rue qui peut parfois se montrer si belle, même si c'est bien l'enfer que j'y vis. Je faisais la collection d'italiennes, les femmes, les motos, les villas, une différente chaque jour de la semaine. Dans la finance, j'étais le pacha. J'avais pour compagnon un lévrier russe. Il faisait tout mon succès en ville. Il m'est resté fidèle avec ses puces. Nous sommes les rois déchus du bidonville. Maintenant, quand je dors, c'est sous le ciel. C'est comme ça que j'ai fini. Dans cette rue qui peut parfois se montrer si belle, même si c'est bien l'enfer que j'y vis. Même si c'est bien l'enfer que j'y vis. Même si c'est bien l'enfer que j'y vis.
Bien, on est de nouveau sur Micro Rebelle Hebdo et sur PFM 99.9. Donc notre émission se poursuit avec nos invités, Jacques, Sandrine, Véronique et Jean-Michel. Alors je vais te laisser la parole, Véronique, pour peut-être poursuivre, parce que tu as commencé à nous en parler tout à l'heure. Mm-hmm. La question du partage, la question des échanges, je te laisse développer un peu cette idée.
Donc moi je fais le constat, d'une actualité fort prégnante, justement des activités de partage, d'une auto-organisation des personnes pour ces activités de partage, hein, qu'elles soient à travers des jardins partagés ou d'autres activités, hein, les systèmes d'échange locaux, les lieux autogérés.
Un système d'échange locaux, tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, système d'échange locaux, on appelle ça, le sigle, c'est le SEL, hein, plus connu, des mondes environnants. Et donc, c'est un système qui permet d'échanger des services, des savoirs ou des biens, les biens par le biais de bourses d'échange locales. Hein, ça peut être des bourses d'échange de plantes, des bourses d'échange de vêtements, d'objets divers et variés. Les échanges de savoir, selon les compétences de chacun qui s'est inscrit au SEL, on échange de tout en termes de savoir. Hein.
Par exemple, si j'ai besoin de graines de courge pour faire mon jardin, alors comment ça se passe ?
Alors là, on organise une bourse d'échange de plantes ou de légumes autour de la nature. Et là, on échange des graines, on échange des plants, de ceci ou de cela. Et on échange aussi des savoirs voilà, et des connaissances autour de ce sur quoi on l'a organisé. Hein,
Jacques ?
Oui, bon, moi, ce que j'en ai participé à un CEL, peut-être la différence avec ce qui pourrait être l'organisation spontanée, c'est que il y a une liste de diffusion qui existe, qui est créée, et ensuite, je veux dire, les échanges ont une certaine valeur qui est déterminée, bon, sous une forme ou sous une autre, selon les celles, hein, voilà, je vais reprendre le sigle, ça peut s'appeler des gaillettes, ici chez nous, celui auquel j'ai participé, le service qui était rendu était évalué en gaillettes, ce qui permettait d'accumuler un certain nombre de gaillettes, d'en proposer, d'en offrir un certain nombre par l'intermédiaire des compétences qu'on avait, et d'en recevoir. Et peut-être, je veux dire, sur un temps déterminé, d'équilibrer cet échange. Ça avait l'avantage aussi d'inciter les uns et les autres à être à la fois receveurs et donneurs, je veux dire.
Donc quand je...
Oui, enfin bon, juste une petite question précise. Vous parlez de quelle commune au singulier ou au pluriel
Ah, pour ce CEL qui s'est fondé.
Non, mais là, vous parlez concrètement. Cette expérience-là, dans le coin, elle est faite.
Alors, donc le CEL des Gaillettes, donc, a été fondé en. Bah, donc, a fonctionné de façon informelle, enfin informelle, avec son règlement et sa charte quand même, mais. N'a pas été déclaré sous forme d'association tout de suite. Hein. Il a été déclaré sous forme d'association en 2011. Et il était sur Méricourt et alentour. Donc il n'y avait pas de commune particulière.
Secteur de Méricourt.
Oui, voilà. Enfin, oui. Non, pas secteur de Méricourt pour autant. Disons qu'on a situé son siège social à Méricourt, mais on avait aussi bien donc des personnes de Carvin, de Bailleul, Cerbertoul, d'Ena Beaumont, de Neuville-Saint-Va, de Liévin.
Tu parles au passé, bon, j'imagine que le CEL n'existe plus, alors qu'est-ce qui fait que ça vit, plus
Bon, disons que voilà, le CEL c'est une auto-organisation, certes, hein, bon, c'est vrai. Le CEL, c'est une auto-organisation, certes, de personnes qui, à un moment donné, bah, voilà, se mobilisent pour faire vivre quelque chose. Hein, et bon, chacun avec son intérêt particulier pour le faire vivre. Hein. Il y a quand même une mobilisation qui naît d'un motif, d'une raison particulière à chacun. Bon, certaines, c'est pour se sortir de l'exclusion, sortir du repli. D'autres, c'est pour dire de valoriser leurs compétences et de les faire partager, valoriser leur savoir. Hein. D'autres, pour simplement passer de bons moments, partager des moments, collectifs.
Et ce qui fait que... Pardon, Jean-Michel.
Et alors oui, donc pour répondre à ta question, bon, c'est vrai, le CEL, on en parle au passé parce que... donc c'est vrai qu'il y a cette auto-organisation qui permet quand même de créer sa propre charte, son propre règlement, son propre fonctionnement, hein, d'établir qu'il y a 60 gaillettes par heure, par exemple, de travail, sans considérer que ce soit un travail, parce qu'il ne faut pas non plus faire concurrence à ce qui existe en termes de travail.
Mais si tu permets, Véronique,
on en parle au passé parce qu'en fait, c'est vrai qu'il a besoin peut-être... de gens aussi motivés pour l'animer.
Comme toute activité, je veux dire, qui est organisée, y compris, pourquoi pas, une association, à partir du moment où c'est organisé, il y a besoin de gens qui font un minimum de travail. On parlait tout à l'heure justement de créer une liste de diffusion, de la faire vivre, de transmettre les informations. Il y avait des fiches où justement on notait ce que l'on avait donné, ce que l'on avait reçu, voilà. Et bah, tout ça, il faut un petit peu le centraliser, le synthétiser, faire le point. Bon, il y a une assemblée générale. ça demande un minimum de travail, de secrétariat, de... Bon, et c'est pas toujours évident de faire durer ça sur le long temps. Après, il peut y avoir aussi des activités qui fédèrent beaucoup. Moi, je sais qu'au départ, les activités, par exemple, de cueillette de fruits en commun, de cerises, de réalisation de confitures ou des choses comme ça, a beaucoup mobilisé les personnes. Bon, pour diverses raisons, cette activité-là a décliné. Et bon, c'est une des raisons, peut-être, qui fait que des cellistes, hein, puisque on les appelait comme ça, ont abandonné l'activité.
Oui, et bon, c'est vrai qu'effectivement, pour vivre, le sel a besoin de, voilà, de gens qui se rencontrent, hein, c'est essentiel. Hein, et, mais il a aussi besoin, parce que là, il s'agit quand même de sortir d'un système monétaire hein, aussi, par le biais des gaillettes, on sort du système monétaire. Hein, on remplace les gaillettes, enfin, on remplace l'argent par des gaillettes. Donc, et donc les personnes qui s'y inscrivent, même avec toute la bonne volonté qu'elles ont, n'ont pas forcément encore franchi le pas de réclamer des services comme ça pour autre chose que de l'argent. C'est un système de valeurs dans lequel les gens ont du mal à rentrer.
Parce que c'est démonétarisé, en quelque sorte.
Voilà, c'est démonétarisé. Voilà, effectivement. Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, moi, j'avais pu constater que peu de personnes, finalement, réclamaient des services, alors que beaucoup étaient toujours prêtes à en rendre, hein, et mobilisées pour en rendre. Mais peu oser franchir le pas de...
Oui, donc maintenant, je comprends un peu mieux, mais ma question, c'était, c'est pas le système de monnaie locale, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein.
Sûr, c'est pas le système de monnaie locale. Mm-hmm. Mm-hmm. Ceci dit, remplacer l'argent par des gaillettes, ça revient quand même un peu à ça, c'est créer quand même sa propre monnaie.
Mais effectivement, liste de diffusion, là, dont vous parliez tout à l'heure, que moi, l'interrogation que j'avais, c'était aussi le secteur géographique, il paraissait très grand. Hein,
Ça n'empêchait pas les gens de se déplacer. Hein. Effectivement, il y avait des activités quand même qui fédéraient davantage, effectivement, comme la cueillette de fruits, et donc la cueillette, les bourses d'échange, hein, en l'occurrence.
De savoir au niveau de la couture.
Oui, les échanges de savoir. Il y a un atelier couture qui, lequel je suppose a quand même continué de perdurer un petit peu. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas trop où il en est, hein, ce sel, parce que j'ai eu d'autres activités qui m'ont fait m'en détacher un petit peu. Mais par contre, moi, ce que je voulais mettre en avant, c'était cette auto-organisation quand même qui existe. Qui est fort présente quand même dans la société actuelle.
Si tu pouvais développer un petit peu.
Et donc on va la retrouver aussi au niveau des jardins partagés, dans lesquels je m'investis depuis quelques années.
Est-ce que tu peux nous détailler justement comment ça se passe, ces jardins partagés?
Ça se passe, disons qu'on avait les jardins familiaux, hein, qui existaient déjà, qui existent toujours, mais il existe donc depuis une bonne dizaine d'années, certainement plus, hein. On n'a pas vu la naissance des choses, hein, disons.
Oui, il y a eu des choses avant nous.
Mais moi, je m'y investis, en tout cas j'ai pris part il y a une dizaine d'années déjà. Et on s'est retrouvés entre personnes qui cultivaient ensemble et partageaient les récoltes ensemble. Hein. Donc ce sont pareil, des personnes qui se sont mobilisées pour faire quelque chose ensemble. Ça partait aussi d'une envie du départ de se réunir pour un moment de partage avant tout. Et plaisir autour d'une activité.
Peut-être pour être concret, hein, pour qu'on visualise bien comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on plante? Je plante ce que je veux ou j'achète mes semences?
Les personnes présentes sur le terrain se mettent d'accord, forcément, collectivement. Pareil, sans forcément avoir constitué d'association, de façon informelle, elles établissent ce qu'elles vont mettre. Hein, et bon, voilà, elles font leur plan du jardin, elles définissent les plates-bandes sur lesquelles elles vont mettre telle chose. Il y a des jours où elles se décident à se réunir toutes ensemble sur le terrain, des jours où elles peuvent s'y retrouver de façon seule ou en plus petit nombre, hein, mais elles savent quand même ce sur quoi elles se sont mises d'accord. Donc,
je pense que l'originalité du jardin partagé, c'est justement de définir un mode de fonctionnement entre les personnes qui décident de faire un bout de chemin ensemble. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de règles définies, il n'y a pas de charte, parce que contrairement au sel, qui, quand un sel local se crée, il est aussi dépendant justement d'une charte, mais aussi nationale. Hein, même si après elle se décline au niveau local, il existe, je veux dire, une fédération des sels, hein, si je ne me trompe pas. Au niveau du jardin partagé, je ne sais pas s'il existe une fédération nationale des jardins partagés, mais je veux dire, le groupe, quelle que soit son importance, décide de gérer les choses à sa manière. Il peut décider de dire, on définit ensemble comment on va planter, quelles graines on va mettre, comment on les achète, où on les achète. Voilà. Ce qui est différent, par exemple, parce que c'est peut-être à dire maintenant, de ce qui peut être les jardins ouvriers ou quelque chose qui revient comme ça, la mise à disposition de terrain par des communes, où on se propose pour devenir, entre guillemets, locataire d'un terrain qui est mis à disposition, mais où on y travaille tout seul. Tandis que là, les gens, ils sont ensemble.
Véronique ?
Alors, il existe des fédérations de jardins partagés avec leurs chartes, mais il existe aussi donc, des jardins partagés sur des terrains prêtés par des particuliers, où les gens donc, là, se fédèrent tout seuls et n'ont pas besoin donc, d'être chapeautés par une autre fédération. Pas besoin d'aide financière pour se réapproprier la terre et s'auto-organise pour tout. Par contre, il existe aussi donc des jardins partagés plus encadrés avec une charte. Voilà, donc ces jardins partagés font partie d'un grand réseau en France. Et on a déjà partagé qui bénéficient parfois de subventions, d'argent aussi de la commune, mais aussi avec donc des élus qui en viennent à vouloir aussi les chapeauter et en tout cas se montrer, alors que ça part d'initiative quand même citoyenne, cette création de jardin partagé local, les élus en viennent à quand même les chapeauter, à être fort présents sur place et un peu trop pour servir leur image, on va dire. Et
il y a une perte d'initiative participative du citoyen ou des partenaires.
Tout cas, il y a un mode de fonctionnement qui finit par par être plus ou moins dirigé. Oui,
mais le terrain, le jardin, enfin le foncier. Mmh. Il est à la collectivité, il est aux élus, c'est ça ?
Là, dans ce cas-là, ce sont des élus, dans le cas des jardins partagés plus encadrés, ce sont des élus, effectivement, qui, à un moment donné, souvent même, dans notre bassin minier en tout cas, partant d'initiatives de citoyens qui ont envie de participer à cette aventure, mettent à disposition un jardin, enfin un terrain. Donc c'est un terrain de la municipalité, effectivement. Et qui contacte donc une association de jardins partagés qui va aider à la mise en place.
Hein. Et donc tu évoquais la mainmise, enfin au moins l'investissement des élus pour récupérer ou pour leur image sur le jardin, mais comment réagissent les jardiniers ?
Les jardiniers...
On
voit quand même la fréquentation, à mon avis, on voit quand même la fréquentation diminuer, à mon avis. Et puis on voit aussi donc des élus dénigrer la présence de certains jardiniers par rapport à d'autres, hein, vouloir en évincer certains. Voilà. Ou ne plus laisser la liberté on voit les élus, donc ne plus laisser forcément la liberté d'expression totale donc à ces jardiniers.
Celles et ceux qui s'en vont, c'est pour ces raisons-là, pour des raisons de perte d'autonomie, en quelque sorte.
Moi, je pense, oui. Je pense qu'on n'a pas envie de... en tout cas, pour les personnes veulent vivre une aventure... oui, collective, indépendante, et voilà, le fait, de sentir au-dessus de soi,
Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important. Beaucoup de situations que l'on vit sont des situations qui sont encadrées, qui sont régies par des textes de loi, des circulaires, des limites, des interdictions, etc. Et le jardin partagé peut être l'occasion, justement, pour un petit groupe de personnes de... faire quelque chose en autonomie, de se retrouver d'une manière autonome et indépendante, autour d'un centre d'intérêt qui est celui-là, qui correspond parfois aussi à une réflexion autour de ce qui est la nature, le fait de bien se nourrir, ça me paraît important. Je ferai juste peut-être aussi une remarque qui correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est aussi le moyen pour les gens de refaire du lien entre eux.
Et de se réapproprier aussi le soin par les plantes, parfois aussi comme le...
Le tisane.
Voilà, de partager d'autres remèdes naturels et de sortir des lobbies pharmaceutiques.
Alors j'explique le clin d'œil de Jean-Michel, hein, qui parle des tisanes de Véro, c'est que Véro nous habitue régulièrement à venir avec sa tisane, hein, faite maison, et elle est toujours très appréciée. Alors donc, le temps a passé très vite, hein, on est quasiment au bout de l'heure d'émission, ce qui veut bien dire qu'on aura nécessité de se retrouver pour approfondir tous ces sujets. Alors donc, je vous rappelle que nous sommes sur Micro-Rebelle Hebdo, micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9 chez nos amis de la radio arageoise. Alors je vous rappelle également que toutes nos émissions peuvent être réécoutées sur micro-rebelle.fr et téléchargées sur micro-rebelle.fr. Je vous informe également que vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à nos échanges, hein, si vous avez des sujets à nous soumettre et même à venir les proposer, vous nous écrivez contact@micro-rebelle.fr. Et puis enfin, n'hésitez pas au travers du site internet à nous proposer des commentaires, des sujets auxquels vous participeriez ou pas. À très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine.